Laissez vos sens s'éveiller grâce à l'écoute alléchée. Un programme espiègle, léger, coquin, qui se veut aussi curieux et interrogateur. Laissez-nous vous emmener faire le tour des courbes et des brèches du désir et prendre la destination du plaisir. Cette programmation est évidemment réservée à un public mature. Embarquement imminent pour l'écoute alléchée, l'écoute alléchée sur RDOA 107.5.
Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de l'écoute alléchée qui parlera de la sexualité de ceux qui n'en ont pas. On parlera donc d'abstinence et d'asexualité. Je suis ce soir avec Coriandre, Sumac, Anis étoilé et Ginger. Salut à vous.
Salut.
Salut.
Ça va?
Oui.
Ouais.
Ça va bien.
Ça va.
Alors, vous l'avez remarqué, nous vivons dans un monde où la sexualisation est omniprésente. Et ce, depuis que la révolution sexuelle a eu lieu, révolution qui, à la base, prônait le droit de jouir pour les femmes et qui, de nos jours, est devenue une injonction à devoir jouir. Évocation sulfureuse d'images sexuelles par-ci, du sexe qui fait vendre par-là, jusqu'à l'hypersexualisation de tout, dans les films, les clips vidéo, les magazines et surtout les pubs, à la télé, dans les rues, bref, partout. Du coup, ça pose plein de questions. Comment est-ce qu'on vit son abstinence ou son asexualité dans un monde où la sexualité est hyper présente? Et puis ça veut dire quoi, abstinence? Quand on parle d'asexualité, de quoi on parle? Qu'est-ce qui définit l'un et l'autre? Ces deux approches peuvent-elles être partielles ou nécessairement totales? Quand est-ce que cela apparaît dans une vie et comment? On vous retrouve tout de suite après un morceau d'Ella et Louis pour développer tout ça.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven, I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week seems to vanish like a gambler's lucky streak. When we out together, dancing cheek to cheek, oh, I'd love to climb to mountain, reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you, the charms about you will carry me through. Yes, heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we out together, dancing cheek to cheek. Take it, Ella, swing it.
Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. Seem to find the happiness I seek when we're out together. together, dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Come on and dance with me, I want my arm about you, the charm about you will carry me through to that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek.
Yes,
dance with me.
De retour sur l'écoute alléchée 107.5. On vient d'écouter Ella Fitzgerald et Louis Armstrong avec Dancing Cheek to Cheek. Alors, moi je vais parler d'abstinence. L'abstinence, j'avoue que c'est pas un sujet qui m'a inspiré tout de suite. Il m'a fallu laisser tomber quelques idées reçues et préjugés. Je fais l'amour depuis que j'ai 14 ans, j'aime ça. Et pour faire court, ma pensée c'est que l'énergie sexuelle est une énergie de vie, donc vitale, forte, puissante et créatrice si elle est canalisée. Je me sens plutôt à cet endroit dans ma vie, comment permettre à cette énergie de circuler le mieux possible et qu'elle me soit bénéfique. Et puis vient le temps de ce sujet, l'abstinence. Alors ça n'a pas remis en question tous mes axes de vie, mais les discussions pré-enregistrement de cette émission et l'écoute de podcasts sur ce sujet m'ont permis de me questionner et d'élargir mon horizon. Et d'abord, c'est quoi l'abstinence sexuelle? C'est le fait de choisir de ne pas faire l'amour et ou de ne pas se masturber. Ok. Mais alors, pourquoi s'abstenir, si ce n'est pour des raisons morales et ou religieuses? Ces questions, je ne me les étais jamais vraiment posées, donc j'avais des réponses partielles, incomplètes. On parle beaucoup de l'abstinence en lien avec la religion, mais il existe d'autres contextes. Finalement, n'y aurait-il pas autant de raisons de s'abstenir que d'abstinents? Et peut-être pourrions-nous tous trouver une raison de s'abstenir à un moment ou à un autre de notre vie. En réfléchissant à tout ça, je me suis rendu compte qu'il y a eu plusieurs moments de ma vie où je n'ai pas eu de relation sexuelle. C'était suite à des ruptures amoureuses, à chaque fois, et ça pouvait durer jusqu'à un an et demi. Besoin de temps pour faire le deuil, pour effacer les traces de l'être aimé et perdu, avant de laisser d'autres mains me caresser et un autre regard m'effleurer. On pourrait parler d'abstinence, car même si ce n'était pas prémédité ou planifié, j'ai en quelque sorte choisi d'attendre que la peine s'en aille et de rencontrer une personne qui en vaille la peine, pour goûter de nouveau au plaisir de l'amour. Même si c'était viscéral de vivre ça pour moi, je me sens alignée avec ça. Il y a de fait une part de choix, il me semble.
Donc, dans ma vie, la seule forme d'abstinence que je connais se résumerait à des moments de célibat. Bah oui, pourquoi être en couple et ne pas faire l'amour? Drôle d'idée. Ah mais si, en fait, ça m'est déjà arrivé. C'est un peu délicat parce que ça touche aux deux sujets d'aujourd'hui, donc l'absence de désir et l'abstinence, mais ça n'entre dans aucun de ces deux sujets à la fois. Mais j'ai quand même envie de raconter cette histoire dans les grandes lignes. Parce que pour en avoir parlé avec un certain nombre de femmes, je sais que ce n'est pas une situation isolée ni exceptionnelle, et je trouve important de libérer la parole, que ce genre de sujet ne soit plus tabou. J'avais 16 ans quand j'ai rencontré J. Je suis restée 4 ans avec cet homme. Les 3 premières années, une fois passée l'idylle du début, il m'a beaucoup trompée et menti. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai menacé, mais je suis restée. Nous avons même, au bout de 3 ans, décidé d'emménager ensemble. Il semblait s'être calmé quant au fait de courir après chaque femme ou presque qu'il croisait. Cette dernière année passée ensemble, nous avons très peu fait l'amour. Je pense que je peux compter sur les doigts d'une ou deux mains maximum les fois où c'est arrivé. Je n'avais plus envie de lui, j'étais carrément écœurée quand il m'approchait, transpirant de désir et dégoulinant de libido. J'ai pensé alors que j'avais un problème, que j'étais frigide ou quelque chose dans ce goût-là. Je me suis beaucoup culpabilisée, il m'a beaucoup culpabilisée également, avec son insistance surtout. Je me souviens m'être sentie obligée de répondre à ses attentes. La plupart du temps, j'esquivais, mais parfois je me suis forcée à lui donner ce qu'il attendait. Après, au moins, j'étais tranquille quelque temps, je pouvais alors respirer plus librement, sans crouler sous le poids de la culpabilité. Aussi, comme je voyais son désarroi, je tentais de le rassurer, lui disant que ça venait de moi. Ce que je pensais sincèrement, d'ailleurs. Pour moi, à ce moment-là de ma vie, ce que je vivais avec cet homme était normal. Ma vision des choses s'étant formée, ou plutôt déformée, dans mon enfance, où l'harmonie relationnelle homme-femme n'existait pas. Et je sens que ces schémas, ces croyances, viennent aussi des mémoires ancestrales de la domination masculine sur le féminin. Alors quand je n'ai plus eu envie de faire l'amour avec cet homme qui ne m'avait pas respecté, aimé correctement, je n'ai pas remis en question ce que j'avais vécu avec lui puisque c'était normal. C'était donc moi qui n'étais pas normale si je n'avais plus de désir pour lui. Puis le temps a passé, j'ai fait d'autres rencontres, j'ai échangé avec d'autres femmes, j'ai observé le monde qui m'entoure. Aujourd'hui, j'ai une toute autre lecture de cette situation. Chemin faisant, je me suis rendu compte que tous ces mensonges, toute la violence des mots, avaient profondément cassé la confiance que j'avais essayé de mettre dans ce lien. Et quand le lien est abîmé, les sentiments s'élimment et le désir s'effrite. Quand je repense à cette histoire aujourd'hui, je vois une jeune femme meurtrie qui n'a plus envie que l'homme qui l'a maltraitée la touche, et je comprends. Ce que je vois aussi, c'est que cette injonction au devoir conjugal, on la porte tout en nous. On se débat plus ou moins avec, on en a plus ou moins conscience, mais elle est là. Et je me demande quel est ce monde qui laisse croire à ses filles, à ses sœurs, à ses mères qu'elles ne sont pas libres de choisir pour leur vie, pour leur corps, et qu'elles se doivent de subir le désir omniprésent des hommes. Quel est ce monde qui laisse croire à ses fils, à ses frères, à ses pères qu'ils ont le droit de posséder les femmes et leur corps à leur guise et qui donc ne leur apprend pas à gérer leurs pulsions, leurs désirs. Je peux amplement comprendre que des femmes puissent, dans ce contexte, choisir de ne plus offrir leur corps pour retrouver de la dignité et de la tranquillité. Aujourd'hui, je ne choisis pas la voie de l'abstinence, mais je sais que mon désir n'est pas inconditionnel, surtout pas. Des conditions, il y en a, et c'est tant mieux. J'ai choisi, il y a quelques années de ça, de ne plus laisser un homme qui me blesse profondément avoir accès à mon corps et à mon cœur. J'ai donc pu, dès lors, rencontrer des hommes bons, de ceux qui écoutent, essayent de comprendre, souhaitent penser leurs blessures d'hommes et mettre du baume sur les blessures que le patriarcat a infligées aux femmes. Et vous savez quoi ? Ce sont les hommes que j'ai le plus désirés.
Que ça vient de moi, sûrement trop oppressant. Quand je doute, elle le voit. Quand j'hésite, elle le sent. Peut-être que ça vient d'elle. Après tout, c'est possible. Être ou ne pas être fidèle, c'est peut-être pas si terrible. Je suis rentré dans la phase. C'était mieux au début. La putain de phrase. Ma nana et moi, on ne baise plus. Je suis rentré dans la phase. C'était mieux avant. Quand ma nana et moi, on baisait tellement plus souvent. Je pense que ça vient de moi.
faut que j'arrête de compter. Aujourd'hui est déjà un mois sans s'exciter.
Et si c'était pas qu'elle,
mais un truc de nana normal, nickel, un truc qui fait que pour l'instant elle veut pas. Dans peu de temps ça passera, ça se peut, des trucs comme ça.
Je suis rentré dans la phase, c'était mieux au début. La putain de phrase qui tue, ma nana et moi, on ne baise plus. Je suis rentré dans la phase, c'était mieux avant, quand ma nana et moi, on baisait tellement plus souvent. Et si c'était nous deux?
Ça, ça me fait froid dans le dos. Ça se peut pas, ça se peut pas.
Si ça se peut,
je vais tomber de haut. Et si c'était un truc qu'elle aurait lu dans Copine Magazine? Gros titre, ne baisez plus, vous aurez meilleure mine.
Gros titre, ne baisez plus, vous redeviendrez fine. Ne baisez plus et faites la cuisine. Ne baisez plus votre mec mais celui de votre copine. Je suis rentré dans la phase, c'était mieux au début. La putain de phrase qui tue, ma nana et moi on ne baisse plus. Ma nana et moi on ne baisse plus. Ma nana et moi on ne baisse plus. Ma nana et moi on ne baisse plus.
C'était les Wiggles avec La Phase. Vous êtes toujours sur RDWA dans l'écoute alléchée. Alors moi, j'aimerais bien parler de désir. Parce que si on part d'une base où deux êtres sont attirés physiquement l'un par l'autre, alors avoir du désir et vouloir partager du plaisir charnel avec cette personne est chose normale. Qui plus est, s'il peut y avoir potentiellement une relation intime par la suite. Aimer, être amoureux, c'est ressentir des émotions, partager des sentiments, mais aussi, a priori, du désir, ce désir physique qui mène au plaisir charnel. Avoir une relation sexuelle, faire l'amour, paraît alors logique, naturel, voire même pour une majorité de gens, essentiel pour leur équilibre, disons presque obligatoire. Ok, mais alors déjà normal, c'est quoi? On pourra continuellement se poser la question tout au long de nos vies. Et du coup, est-ce que ça parle vraiment à tout le monde, ce schéma-là? Comment apparaît ce désir? Est-ce qu'il doit forcément apparaître? Idem pour le plaisir charnel, doit-on forcément se donner charnellement pour estimer avoir une relation privilégiée avec une autre personne? Alors, suite à toutes ces questions, on va écouter une interview d'une personne qui est abstinente. Léa, bienvenue à toi.
Merci.
Dans notre émission. Tu viens nous parler de ton abstinence.
Ouais.
Est-ce que tu veux déjà te présenter?
Oui, Léa, 28 ans.
Mm-hmm.
Pour le parcours un peu, on va dire, une vie familiale un peu houleuse. Et puis après, je suis partie en saison et j'ai fait plusieurs expériences dans l'abstinence. Voilà. J'ai eu une vie un peu de saisonnière justement pour pouvoir expérimenter plusieurs choses.
Comment est-ce que toi, t'es rentrée dans la vie sexuelle, en fait? À quel âge et comment ça s'est présenté pour toi?
Alors, disons que j'avais conscience de la sexualité depuis très jeune. Je savais comment c'était, ce qui se passait. Donc, le cocon familial était un peu compliqué, on va dire. C'était vraiment... On sentait la sexualité partout et du coup, j'ai pas vraiment eu de surprise. Donc, c'est quelque chose que je connais depuis petite. Je suis rentrée dans la sexualité jeune, j'ai commencé à 13 ans, une fois, et la fois d'après, c'était peut-être à mes 17 ans, en fait. Là, je pouvais me jeter assez vite dans les bras de tout le monde dès que j'avais beaucoup bu. Et par contre, je pouvais avoir des relations avec des garçons sans qu'on fasse de sexe pendant plusieurs mois. Ensuite, j'ai eu un copain où j'ai compris que le sexe pouvait être très drôle, en fait. Il m'a vraiment fait expérimenter rien d'exceptionnel, mais juste de pouvoir rire de ça, c'était vraiment plaisant, en fait.
T'avais quel âge, là?
Là, j'avais 18 ans.
Ok.
Donc voilà, c'était un petit copain, mais c'était un ami surtout, et voilà, on rigolait beaucoup.
Donc ça m'a soigné de pas mal de choses déjà. Et puis voilà. Et après, je me suis plus posé de questions, effectivement, par rapport à ce que je m'étais fait vivre, on va dire. Et du coup, à mon enfance, tout ça. Et puis, vraiment, un des points importants depuis que je suis très jeune, c'est justement de ne pas garder tout ça, de ne pas en souffrir toute ma vie, en fait. Donc, je voulais vraiment trouver des solutions, quitte à des fois me faire vivre des expériences très dures, mais pour être bien après. Et voilà, pour ne pas garder de traumatisme, pour ne pas garder de rancœur, pour ne pas... Mmh. Voilà. Je pouvais m'imposer des choses que je ne sentais pas, que je n'avais pas envie de faire. Ou des choses comme ça, comme si je voulais moi-même faire souffrir pour ne plus penser à ce qu'on m'avait fait subir, on va dire. Et donc voilà, ça m'a semblé une solution sur le coup. Bon, seul. Disons que c'est fait, et puis maintenant ça va. Donc, mais voilà, c'était quelque chose en tout cas qui était très important pour moi. C'était d'aller au fond de tout ça. On va dire que le sexe, pour moi, était très important. Enfin, dans la famille, ça avait l'air d'être quelque chose de... qui est là partout et qu'on ne peut pas passer outre et tout ça.
Ouais, tu peux nous décrire un peu, enfin, quand tu dis c'est là partout, c'est-à-dire...
Bon, mon père, on va dire que... Mais il y a eu des situations un peu violentes. Et puis du coup, une grande sœur qui a 10 ans de plus, donc c'est vrai qu'elle, elle avait le recul pour en parler, donc depuis que je suis très jeune, en fait.
Ah, t'en parles avec elle.
Voilà, d'accord. Donc je sais très bien ça, et puis des pratiques un peu sadomasochistes, tout ça, donc...
Parce que tes parents vous en parlaient ou juste c'était vu ?
C'était vu. Alors mon père pouvait nous en parler, ma mère fermait les yeux surtout. Donc non, on n'en parlait pas avec les parents. Quand j'ai essayé avec ma mère, il n'y avait pas vraiment d'écoute. Elle ne voulait pas et elle oubliait assez vite. Donc, alors ce qui est bien, c'est qu'on a une fratrie qui se serre les coudes. Et voilà. Mais donc c'est pour ça en fait. Je me suis lancée là-dedans et puis pour comprendre aussi mon père finalement. Et puis pour voir moi ce qu'il y avait de vrai dans ce que je pensais être la sexualité et ce qui m'allait personnellement en fait, sans tout ce que j'avais appris là-dessus et tout ce que j'avais vécu. Donc au bout d'un moment, l'abstinence était vraiment la solution en fait, pour prendre du temps pour moi, pour plus être influencée par la pratique de quelqu'un d'autre.
Quand tu dis que tu as vu des sites sadomasochistes, c'est par quel biais ?
Bah, mon père, qui le laissait assez facilement, je pense qu'il aimait bien qu'on le prenne aussi, qu'on le voit. Du coup, il pouvait laisser son ordi ouvert consciemment, nous dire d'aller faire un tour, puis envoyer un peu...
Et ta grande sœur, tu dirais qu'elle vous a aidé à comprendre tout ça, ou comment elle gérait ça, elle ?
Alors, ma grande sœur, c'est différent, on n'a pas le même père.
Ah, d'accord.
Du coup, c'était le beau-père.
Okay.
Du coup, elle était très énervée après lui, ce qui était tout à fait normal. Enfin, donc, non... Elle nous a fait rentrer là-dedans et puis elle n'avait aucune aide, personne à qui parler. Elle subissait un peu tout ça, donc on en parlait pour vraiment être unis, on va dire, dans cette expérience.
Et donc là, on va reprendre sur tes relations que tu as eues après.
Ouais.
Et la relation que tu as eue donc, à 18 ans avec un homme.
Oui.
Ouais.
Ouais. Voilà, c'est surtout, on était amis et on a vécu des choses... On s'est beaucoup aidé, on va dire, dans ce qu'on a vécu. Et c'était surtout très drôle, en fait. Le sexe n'était plus un moment de tension pour moi, de peur, où il fallait vraiment que je boive beaucoup. Et en fait, ça a été le premier homme avec qui je n'ai pas bu. Mm-hmm. Mais voilà, de pouvoir être plus tranquille et d'en refaire quelque chose qui peut être joli, qui peut être... voilà.
Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que tu as déjà pensé à l'abstinence, ou c'est à partir de quel moment ?
C'est un peu après, là où j'ai eu une relation un peu plus longue, de 2 ans. Au début, ça se passait bien tout ça, et puis j'ai vite fini par éprouver de moins en moins de désir, tout en ne connaissant pas ça. Enfin, je ne savais pas trop pourquoi, et je me disais que j'avais un problème. Et du coup, on continuait à faire l'amour de temps en temps. Et il y avait quelque chose qui me gênait là-dedans, je me trouvais fausse. Alors c'est... Voilà. Au bout d'un moment, j'ai préféré arrêter, entre autres pour ça.
Arrêter la relation.
La relation.
Ouais. Ok.
Ouais. Et alors après, c'est là que j'ai passé plusieurs mois, années, voilà. Enfin, presque, ouais. Une bonne année.
En abstinence.
Ouais.
D'accord. Mais toujours en rencontrant des gens ou...
Oui. Alors pas de relation. Pas en relation de. Enfin, je rencontrais des hommes ou quoi, mais du coup pas en relation, il y avait vraiment, j'embrassais pas non plus, ou enfin voilà, c'était des amis, tous ceux que je rencontrais, voilà.
D'accord.
Il y avait vraiment aucun, non, j'ai pas créé de relation amoureuse.
Est-ce que c'est quelque chose que tu t'empêchais de faire, ou est-ce que t'avais juste vraiment pas, c'était même pas là en fait, l'envie de faire ou...
Il y a eu des périodes sans désir du tout. Et des fois, j'avais du désir. Et c'est là que c'était intéressant, en fait. Et puis, voilà, il y a le désir qui revenait, mais du coup, j'écoutais plus envers quoi il arrivait. Enfin, pourquoi j'avais du désir, en fait. C'est pas forcément ce que je pensais.
Tu peux donc... juste développer ça.
J'ai revu un peu, voilà, ce que je voyais du sexe. Donc, vraiment, bah, une relation... Enfin, faire du sexe et avoir un orgasme, c'est fini.
Le type
et,
coït.
Voilà. donc ça me plaisait pas, en fait. Donc finalement, quand j'avais du désir, bah déjà, je pouvais même le vivre sans me masturber ou quoi, mais juste me laisser prendre par ce désir, vraiment, et puis toute seule. Et je trouvais ça super beau, en fait, qu'il n'y ait pas forcément d'objet, juste de vivre cette expérience. Et puis voilà, ça m'a fait me remettre en... repenser un peu le sexe et me dire que c'est pas forcément ça, effectivement, juste attendre un orgasme et s'endormir, quoi. Et après, voilà, au bout d'un moment, j'ai senti que je m'étais un peu réapproprié mon corps, réapproprié mes pensées, tout ça, et puis j'ai vu un garçon que j'ai bien aimé, et puis voilà, je voulais pas m'obliger, donc à ce moment-là, je savais que c'était bon, et puis
donc, tu es entrée en relation avec cette personne ?
Oui.
Ouais.
Ouais, ouais.
Mais sans sexe, du coup ?
Si, avec, là.
Ouais, avec, ouais. D'accord.
Et c'était déjà différent et c'était vraiment bien. Mais je me suis aussi rendu compte que, bah, du coup, j'ai pas vraiment besoin de faire du sexe régulièrement, en fait. C'est vraiment une expérience que j'aime bien. Bah quand j'ai envie et j'ai pas des désirs réguliers. Donc, voilà.
Ça, t'as pu lui exprimer tout de suite ?
C'est quelque chose que je me rends compte, ça, j'ai encore du mal à exprimer. Donc, en fait, je vais juste privilégier les relations, voilà, où ça peut être un garçon que je revois souvent, mais où on habite loin, ou des choses comme ça. Je sais pas si c'est du mal ou si, justement, j'ai pas forcément eu l'occasion d'avoir une relation, finalement, où je voulais m'investir amoureusement aussi, et qu'il y ait vraiment quelque chose.
Est-ce que tu arriverais à dire pourquoi est-ce que c'est difficile de le dire ?
J'ai des difficultés souvent à mettre des mots sur les choses, parce que ça serait créer la chose, en fait. Voilà, c'est... Et du coup, souvent, j'ai ce... Je dis pas les mots, je dis pas vraiment ce que je ressens à ce moment-là, parce que je sais que c'est évolutif et que je veux rien créer. Du coup, j'expérimente, ça change rapidement et voilà. Et peut-être que si j'explique, peut-être qu'après, il faudra argumenter. Et c'est un exercice que j'ai un peu de mal. Donc voilà, je ne le fais pas forcément.
Et quand tu parles de relations amoureuses, alors moi, ce qui m'intéresse, c'est d'arriver à comprendre qu'est-ce que tu définis comme amour.
J'ai une relation là, l'année dernière. Avec un garçon que là, j'aimais vraiment beaucoup et j'aurais pu me mettre en couple avec lui. Enfin, et lui, de son côté, non, il ne voulait pas être en couple. Ouais, c'était beaucoup d'émotions, en fait, quand je le voyais. Et effectivement, pas de désir, forcément, ou à certains moments. Mais c'était vraiment... Je l'entendais plus que les autres qui étaient là, je le sentais plus, et même sans le voir, je sentais quand il arrivait, et envie d'être beaucoup avec lui, et penser à lui, avoir le sourire, et sans... Je sentais beaucoup d'émotions envers lui, en fait, et effectivement, pas tout le temps du désir. Je le trouvais très beau, en fait, je le trouvais très beau dans sa vie, ouais, une belle personne qui faisait des belles choses. Et en plus, j'ai expérimenté la... Je suis très possessive normalement, et puis là, du coup, beaucoup moins, en fait. Je le trouvais beau dans ce qu'il était, ce qu'il faisait, et puis finalement, c'était bien qu'on ne soit pas mis en couple, et j'aimais ça, en fait. J'ai passé une belle expérience aussi.
Est-ce que toi, tu as du plaisir sexuel toute seule ?
Alors oui, je redoutais cette question. Oui, mais alors, j'ai du mal avec mes mains, je peux pas. En fait, j'ai essayé, j'y prends pas de plaisir. Donc voilà, la seule solution, pour le coup, c'est cool, dans la douche avec le jet d'eau. Et là.
Okay.
Et là, j'aime beaucoup parce que justement, je peux expérimenter cet orgasme, mais le continuer. Enfin voilà, du coup, c'est comme ça aussi que j'ai découvert finalement que les relations sexuelles avant me donnaient pas tant de plaisir que ça finalement, parce que je m'adaptais vachement à ce qu'on attendait. Et donc là, voilà.
Ouais, ça pose. Alors moi, c'est une question qu'on pose beaucoup dans l'émission, qui est un peu le fil rouge de toutes ces émissions. C'est quoi une relation sexuelle?
Alors, s'il n'y avait aucune contrainte, si dans un monde imaginaire, quel serait ton rêve, voilà, de la relation sexuelle avec quelqu'un d'autre?
Alors, je crois que ça pourrait prendre des heures, en fait. Et c'est vrai que d'enlever toutes ces images de comment il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour donner du plaisir, et puis... Alors, une petite méditation au début, au diapason. Et puis après, vraiment, ressentir l'autre et agir sans réfléchir aussi. Moi, la pénétration, ça me plaît beaucoup. J'ai pas de... Voilà, c'est pas quelque chose... Mais prendre le temps et pouvoir s'arrêter, reprendre, enfin, vraiment, qu'il n'y ait pas de...
Ouais,
de
timing,
pas de règles, pas de timing... Il peut y avoir un côté très animal, un côté très doux, très lent, même s'il ne se passe rien pendant un moment, ça peut être très beau, ça peut être à ce moment-là aussi où il y a beaucoup d'énergie et sentir aussi ce que ressent l'autre. S'il a envie d'éjaculer, oui, s'il n'a pas envie, non. S'il veut vivre l'orgasme sans éjaculer, continuer, enfin voilà, ça c'est... ça, j'ai pas trop d'avis. Mais comme finalement un rapport sexuel aussi très court, qui dure peu de temps, peut être très beau aussi. Enfin, finalement, je trouve qu'il n'y a pas de règles. Et puis c'est pour ça que le partenaire, c'est cool, enfin, d'être avec un partenaire aussi où il y a une bonne entente, on va dire. Rêver ça, enfin, en fait, de savoir que c'est possible déjà. Donc c'est des choses que je ne pensais pas possible avant. Donc de savoir que c'est possible, de savoir que d'autres personnes pratiquent ça, veulent pratiquer ça, ont la même idée en tout cas du sexe, on va dire. Donc maintenant, voilà, je suis plus dans un temps tranquille déjà de ce côté-là. Et je pense que j'attends quand même quelqu'un avec qui vivre ça, en fait.
Est-ce que tu es amoureuse de quelqu'un en ce moment ou
Non.
Non.
Non. J'aime beaucoup de monde.
T'aimes beaucoup de monde. Ouais.
Je ne pouvais pas dissocier le sexe de l'amour, vraiment, et puis je ne savais pas... Alors maintenant, oui, vraiment, je peux aimer énormément quelqu'un sans vouloir de sexe ou vouloir vraiment du sexe avec quelqu'un sans avoir des sentiments amoureux. Et puis du coup, je peux aimer beaucoup plus une amie que je pouvais le faire avant. Enfin, vraiment, ça a déclivé beaucoup de choses. Et ça, c'est beau. Mmh. C'est cool. Je me demande si la différence... ma part en ce moment, en tout cas, ce serait pas dans le désir de futur, en fait, dans peut-être une attente de futur qu'il y aurait avec un amoureux ou une amoureuse, qu'il y a moins avec un ami, toujours un peu dans cette image de couple qui crée une famille et qui fait des
projets, partage les choses.
Voilà.
Mmh.
Donc effectivement, un amoureux, ça serait plus quelqu'un, oui, avec qui on a une certaine idée commune et puis on veut bien s'aider à aller par là tous les deux, quoi.
Ben, je ne sais pas, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de passer comme message aux personnes qui sont abstinentes, mais qui le subissent un peu et qui ne se sentent pas bien avec ça, en fait?
Je pense de faire un problème de ça, ça devient un monstre, en fait. Et c'est vrai qu'il y a une injonction à faire du sexe dans le couple, et que sinon, c'est qu'il y a un problème, tout ça. Je pense qu'il y a l'amour et le sexe qui se mêlent, mais qui peuvent aussi être... seul, donc on peut aussi aimer sans sexe et que c'est vraiment pas un problème. Après, ça doit être compliqué quand effectivement il y a son mari qui est là pour le coup à du désir et qui est abstinent malgré lui. C'est vrai qu'en parler, ça reste la base. Peut-être se foutre la paix là-dessus aussi, pas s'en vouloir, pas se demander quel est son problème ou parce qu'il y en a pas, en fait, c'est comme ça. C'est vrai que dans ça, les couple libre, bon, ça facilite un peu la chose. Comme ça, celui qui a du désir peut effectivement
Oui, il y a des gens pour qui c'est pas entendable non plus d'être en couple libre.
Ce que je comprends, bien sûr.
Tu vois, toute cette question de tout à l'heure, tu disais de la jalousie, de, de ce que compliqué. Ça vient toucher dans l'ego, quoi.
C'est ça. En parler, et puis vraiment pas en faire un problème de mon Dieu, mais si jamais j'ai plus jamais de désir, bah non, ça, il est parti, revient, ou pas, mais voilà. Et puis déjà l'accepter tel qu'il est, et je pense que ça. Voilà. Pas avoir peur pour après, en tout cas, quoi.
Merci Léa d'avoir participé à cette interview pour l'écoute à déchets.
Avec plaisir.
Et à et bientôt.
Voilà, à bientôt, merci.
Merci.
On peut vivre sans richesse. Presque sans le sou, des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire. Et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, vraiment, vraiment. Le travail est nécessaire, mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable, broyé et déçu. Alors, sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
C'était Bourville avec La Tendresse sur l'écoute alléchée. Vous êtes au 107.5 sur RDIWA. Alors, pour parler de différents cas de figures d'abstinence, on peut en évoquer quelques-unes où les personnes ont fait le choix de ne pas mettre les rapports charnels au centre de leur relation. On a par exemple les relations virtuelles et ou à distance. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet et la multiplication des sites de rencontres et des applications en ligne, de plus en plus de personnes se rencontrent par le biais virtuel. Même si le but est de se rencontrer le plus vite possible, le temps passé à échanger virtuellement par message, téléphone ou visio prend de plus en plus de place dans les débuts d'une relation et peut durer des jours, des semaines, voire même des mois si entre en jeu également le critère de la distance. Dans ces cas de figure, relation à distance ou relation en ligne, le virtuel prend une place importante dans la construction et la possible pérennité du couple. Les échanges ne se font pas de visu, les mots ne peuvent pas s'accompagner de gestes, de rapports charnels. Ces couples qui acceptent de fonctionner ainsi se donnent-ils une deadline ou sont-ils satisfaits de ce mode de fonctionnement ? Sont-ils comblés, épanouis de ne se voir que les week-ends par exemple ou pendant les vacances ? En tout cas, le constat est que la communication est centrale pour ces personnes qui construisent leurs relations autrement. Soit parce que les rapports intimes n'occupent pas une place essentielle dans leurs relations, soit parce qu'ils ont fait du désir un jeu amoureux pour faire durer leur couple malgré la distance. La notion de manque physique se pose différemment d'un couple à l'autre et chacun a son seuil de tolérance en la matière. Alors on a également l'usure du désir qui peut aller jusqu'à l'abstinence totale avec les années. Avec le temps qui passe, les couples qui sont ensemble depuis des décennies ne vivent plus seulement une phase avec baisse de libido, mais une véritable nouvelle étape pour le couple, qui ne place plus les rapports intimes comme un élément principal de leur relation. Le plaisir physique devient peu à peu secondaire jusqu'à devenir inexistant. C'est juste que le temps allant, l'âge avançant, certains montrent leur amour différemment et le plaisir physique, ou plutôt l'absence d'intimité, n'est plus un sujet de discorde, d'éloignement ou la cause possible d'une séparation. Ces couples s'épanouissent autrement et le côté charnel est souvent plus une histoire de marque de tendresse et d'affection. Attention, je ne dis évidemment pas que tous ces couples ensemble depuis plus de 20 ans, par exemple, ou ayant passé la soixantaine, n'ont plus envie de faire l'amour, pas du tout. Certains pratiquent même le slow sex, sujet dont on vous parlera très certainement lors d'une prochaine émission. C'est juste que pour certaines personnes, la question des rapports charnels n'est pas forcément centrale, ne constitue pas un élément d'équilibre absolu. Leur histoire a évolué avec le temps, sa solidité et sa pérennité ne dépendent pas uniquement du désir physique. On a aussi le fait que notre corps n'est pas toujours notre allié. Parfois, malheureusement, ce sont les aléas de la vie qui nous imposent un changement, passager ou plus durable. Nous ne sommes pas maîtres absolus de notre corps, de notre santé, et certains événements peuvent avoir une incidence directe sur les rapports intimes. Est-ce qu'on peut alors parler d'abstinence quand le choix nous est imposé ? Grossesse difficile, maladie grave, traitement médical, accident, handicap, réaction physique suite à un viol ou attouchement non consenti, aphanésis, c'est un terme qui désigne le défaut d'apparition ou la disparition du désir sexuel chez l'homme ou la femme. Toutes ces difficultés de santé, ces épreuves de la vie sont autant de raisons qui peuvent empêcher à des personnes d'avoir une vie intime. Dans d'autres cas de maladies chroniques ou de handicap lourd, les rapports intimes peuvent se révéler dangereux et ou impossibles. Il n'est pas question d'envie, de désir, mais bien d'incapacité à faire l'amour d'un point de vue pratique. Chaque personne qui vit une telle situation vit alors son intimité autrement, et la sensualité et le désir se développent en fonction de la réceptivité du corps de chacun. Pour les personnes en couple et pour lesquelles les rapports charnels sont formellement interdits ou impossibles, il est évident que si le sentiment amoureux est présent, il n'est alors pas question de frustration ou d'obligation. L'amour se construit indépendamment du désir, mais cela n'empêche pas l'envie de l'autre. Il faut juste faire preuve d'inventivité pour manifester son désir pour l'autre différemment et ne pas oublier que la tendresse et la sensualité tiennent une place importante dans l'exercice de l'intimité. Je vais passer la parole à Coriandre qui va nous parler de cas d'IST qui impose un choix difficile.
Alors moi, je pense que j'ai toujours eu en tête le mot abstinence sans trop savoir ce que je mettais derrière et quelle place je voulais lui laisser dans ma vie. D'aussi loin que je me souvienne, la sexualité, ça a toujours été central dans mon agencement de vie, que ce soit l'envie de sexualité, la peur de sexualité ou la pratique de ma sexualité. J'ai toujours organisé chaque semaine, chaque jour, chaque mois de ma vie en fonction de possibles partenaires sexuels, à prendre des trains pour traverser la France, à mettre fin à des contrats de travail, à plein de choses. Je voulais être sûre de toujours pouvoir vivre une relation de la manière dont j'avais envie de la vivre. Pour moi, c'était quelque chose de très important de pouvoir faire l'amour de la manière dont je l'entendais, avec des partenaires qui le voulaient aussi. Et j'étais complètement à la recherche de tous ces shoots hormonaux que ça procure. Et un jour, j'ai découvert les IST. donc les infections sexuellement transmissibles. Donc j'en avais déjà entendu parler à l'école comme quelque chose qui existe, mais à la fois qu'on croise jamais vraiment, mais en même temps on nous dit que tout le monde peut en avoir, mais on se rend pas trop compte qu'est-ce que ça peut vraiment impliquer dans la vie. Et donc là, ça a été la désillusion totale, puisque moi j'existais qu'à travers ma sexualité. C'était mon unique moyen de communiquer, de me sentir légitime d'être en vie. Et là, d'un coup, je fais face à toute cette violence physique des IST et des symptômes, incroyables que j'ai subis. Et de tout ce que ça remettait en question dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à mon corps. Et de me rendre compte qu'en fait, mon corps pouvait être fatigué, que mon corps pouvait ne plus être apte en fait, à avoir un rapport sexuel comme je l'entendais. Donc, ça a été un gros bouleversement dans ma vie qui m'a apporté des très jolies réflexions. J'ai remis en question la pénétration pénis-vagin, qui était quand même pas mal au centre de mes pratiques sexuelles, qui me posait déjà question avant, mais là, du coup, de ne plus pouvoir être pénétrée par un pénis, j'ai dû me confronter à un changement radical de mes pratiques. Et à ce moment-là, j'ai dû faire le choix pour que mon corps survive, quoi. De ne plus avoir de sexualité avec quelqu'un, avec des partenaires. Et donc moi, là, j'ai subi en fait le fait de devoir choisir, de devoir m'abstenir de faire quelque chose qui, pour moi, était mon seul moyen d'exister. Ben là, de me dire, ben non, en fait, ton corps, il ne suit pas. Donc là, tu n'as pas le choix. Il faut choisir de soigner ton corps. Il faut prendre soin de ton corps parce que ton corps, c'est toi. Et que du coup, voilà. Et donc là, ça a été compliqué. Après, petit à petit, j'ai essayé de créer ce que c'était pour moi la sexualité, d'aller vers ça, d'avoir à nouveau une intimité avec des partenaires et d'être toujours confrontée au fait que d'être en face de gens pour qui... la sexualité, c'était un pénis dans un vagin ou c'était des choses que moi, mon corps n'était pas capable de faire et dont j'avais très envie. En fait, c'était ça qui, je pense, était le plus compliqué. C'est d'avoir envie de faire des choses, de savoir qu'en soi, je suis quand même en bonne santé. Mon corps est apte à faire plein de choses et de ne pas pouvoir faire ce qu'on a envie de faire parce qu'on n'est pas physiquement capable de le faire. Du coup, régulièrement, hein, tous les 6 mois, j'ai des gros questionnements où je me dis qu'en fait, ce serait peut-être quand même moins frustrant de m'abstenir complètement de sexualité, quoi. Parce que du coup, quand je fais l'amour avec quelqu'un, ça me met aussi dans une envie d'en faire davantage avec la même personne ou avec d'autres. Et que... Du coup, des fois, de prendre vraiment du recul. Et des fois, je me dis que ce serait une bonne idée. Et en même temps, je n'y arrive pas. Donc, ça fait mettre une autre pression. Et puis, cette frustration de toujours être frustrée, en fait, sexuellement. Et les IST qui, du coup, ont fini par garder dans ma vie une place hyper énorme parce que d'avoir... vécu le côté difficile que peuvent être certaines IST, je garde en moi une colère je suis en colère contre tous mes potentiels partenaires parce que je trouve qu'ils sont jamais assez sensibles à ce truc de santé, quoi, qui est c'est prendre soin de son corps. On nous apprend pas à le faire, notamment sur la sexualité, et que du coup je suis tout le temps dans ce truc de passer de l'un à l'autre, de me dire ok, j'ai envie de faire ce que j'ai envie, je suis mes désirs, nanana, nanana, et puis après il y a le corps qui bloque. Et du coup moi j'aimerais que les gens soient plus sensibles à l'écoute d'eux-mêmes déjà, mais aussi à prendre conscience qu'il y a des IST qui sont 3 fois rien parce qu'en fait on se fait dépister, on prend un petit cachet et c'est contraignant à un moment Et ça peut un peu nous bouleverser, mais il y a aussi des choses... déjà, il y a des IST qu'on garde à vie. Il y a des IST pour lesquelles il n'y a pas de traitement. Il y a des IST qui ne sont pas très graves chez une personne et en fait qui vont avoir beaucoup d'incidence dans la vie de, d'une autre personne qui ne va pas supporter le traitement ou qui va avoir une image complètement négative de son corps. En fait, on voit beaucoup l'aspect... l'aspect lié au sexe et le côté physique, mais ça peut aussi avoir un impact sur la vie entière, sur comment on se sent, sur comment on se considère. Et du coup, moi, à chaque fois que j'entends parler d'abstinence, ça me fait penser à ça et me dire que ben, quand on a une IST, on peut faire comme si de rien n'était sans se préoccuper de la filer à quelqu'un d'autre, etc. Mais on peut aussi... On peut aussi s'abstenir le temps de se guérir ou si ce n'est pas quelque chose qui se guérit, d'adapter sa sexualité. Donc, je propose qu'on puisse envisager de faire une prochaine écoute alléchée, peut-être sur un aspect plus santé, quelque chose de plus technique, et pour parler des IST.
Il y en avait plein les jardins, il y en avait plein les cours d'immeubles, des petits bambins, des petits parisiens, et même des petits gavroches, les deux mains au fond des poches, qui te matent en coin avec des têtes de petits malins. Alors j'ai dit, allez viens mignonne, allez viens, on en fait un, on le tiendra par la main, tous les trois on rigolera bien. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de liaison, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, que la vie c'est pas du gâteau. Même si je gagne pas ma vie, et même si j'ai le sida, moi ça me coupe pas l'envie. Moi je me dis ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleines dents, dans les jours où c'est un enfant. Je lui dirais salut mon petit gars, lui me dirait salut papa. J'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment enquêtera les meufs, comment c'est qu'on fait la teuf. Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas du gâteau. Et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, la vie c'est pas du gâteau. C'est pas du gâteau. Tu vois, avant de crever, je voudrais laisser couler de la morve d'un petit nez, un petit sourire, un petit bout d'éternité. Tu me dis que tout ça c'est des fantasmes, et j'ai du mal à te contredire. Mais je voudrais quand même laisser une trace avant de partir, avant de mourir. Même si la vie c'est pas du gâteau, et qu'on fera pas de vieux os, qu'on fera pas de marmot. Pour l'heure qu'elle est tout haut, c'est pas du gâteau, c'est pas du gâteau.
C'était Mano Solo avec Pas du gâteau. Vous êtes toujours dans l'écoute alléchée au 107.5 sur RDIWA. Alors dans cette émission, on vous parle d'abstinence, mais on parle aussi d'asexualité. Et voilà qu'en 2017, on commence seulement à reconnaître le fait d'être asexuel comme une orientation sexuelle. Lors de la conférence des droits de l'homme de la World Pride à Madrid le 28 juin 2017 exactement. Certaines personnes choisissent effectivement de vivre une relation amoureuse sans avoir de rapports intimes, sans plaisir dit sexuel. Il ne s'agit pourtant pas d'un phénomène récent, ni d'une mode, comme certains voudraient le croire, parce que la sexualité a toujours fait partie de l'histoire humaine. C'est au début du XXe siècle, à la naissance de la sexologie, que Kraft et Bing nomment cela « anesthesia sexualis ». Et dans les années 50, un autre sexologue, Kinsey, appelle ces personnes le groupe X. Alors pour parler de cela, je vais passer la parole à Ginger.
Alors salut. Alors qu'est-ce que l'asexualité ? L'asexualité est une orientation sexuelle au même titre que l'hétéro, l'homo, la bi ou la pansexualité. Alors la pansexualité, c'est comme la bisexualité, mais ça inclut aussi tous les autres genres comme transgenre, non-binaire, etc. Donc des êtres humains qui peuvent être attirés par tous les êtres humains. La sexualité, c'est le contraire. Comme pour vous, il y a des personnes qui ne vous attirent pas sexuellement, et bien pour eux, ça concerne la Terre entière. Ils ne sont attirés par personne. AVA, l'association de visibilité asexuelle, tente de faire connaître au monde l'existence de ce petit groupe qui représente seulement 1% de la population et qui est encore mal connu et considéré dans les manuels de psychologie comme un groupe de malades. Trauma, dérèglement hormonal, tout peut y passer pour tenter de mal comprendre l'incompréhensible. Il y a 30 ans encore, l'homosexualité était décortiquée scientifiquement par de grands psychiatres, apparemment homophobes, persuadés que cette maladie pouvait être soignée. Vous comprenez aujourd'hui à quel point cette hypothèse est ridicule, et il est donc facile de remplacer l'asexualité par l'homosexualité dans toutes les questions que l'on se pose, et de voir que le moindre doute sur la bonne santé de ces personnes ne tient pas la route. Le mouvement asexuel est né aux États-Unis et s'est fait connaître grâce au documentaire nommé « Asexuals », dont vous pouvez voir la bande-annonce en lien sur la page de l'émission. En France, quelques blogs traduisent de nombreux articles américains et expliquent en profondeur la diversité des façons de se définir asexuel. Certains font parfois du sexe ou sont engagés dans des relations amoureuses avec une ou plusieurs personnes, en relations mixtes avec des personnes qui ressentent de l'attirance sexuelle. D'autres deviennent asexuels ou arrêtent de l'être. L'étiquette asexuel est un outil facilitant la communication. Il en est de même pour les mots, mais ils ne définissent pas ce que nous vivons, qui est pour chaque personne et chaque instant une douce variation unique et particulière. Ce qui finit par m'étonner, c'est que nous ayons besoin d'autant d'explications pour admettre l'existence de ce qui n'est pas comme nous, de ce que nous ne pouvons pas rattacher au connu. Cela témoigne de la manière dont notre culture aborde la différence. Ce qui n'est pas nous n'est pas normal et serait une malformation à réparer. Nous pourrions imaginer une autre culture qui aborderait la différence dans une acceptation immédiate. Tu n'as pas d'attirance sexuelle ? Waouh, c'est dingue, je n'imaginais pas que ça pouvait exister. Tu le vis comment ? Le truc dingue, c'est que cette non-acceptation de la différence fait que nous avons du mal à accepter nos propres différences, nos propres changements. Et lorsque nous faisons quelque chose de nouveau, nous mettons plus ou moins beaucoup de temps à nous sentir légitimes de le faire. Nous nous attachons à une identité que nous avons créée, je suis comme ci, je suis comme ça, et il est donc difficile de s'en détacher. Elle est à mon sens totalement illusoire, comme le monde qui nous entoure. Les mots et le langage nous aident à expliquer la réalité, mais ils nous en éloignent tout autant. Pour comprendre, il faut arrêter d'essayer de comprendre. Il y a une différence entre faire et être. Nous ne sommes pas homosexuels, mais nous faisons du sexe ou l'amour avec des personnes du même genre. Nous ne sommes pas photographes, mais durant une période de notre vie, nous aimons faire des photos. La seule chose que nous sommes, c'est nous et nous ne sommes rien d'autre. Nous faisons parfois ou beaucoup. Et nous n'avons pas à nous identifier avec ce que nous faisons. C'est pourquoi je pourrais, par exemple, ne pas me sentir légitime d'être un gros niqueur. Ah non, pardon, c'est pas ça du tout que je voulais dire. Surtout en ce moment, c'est pas vraiment le cas. J'y reviendrai plus tard. Je voulais dire un chroniqueur. À la radio. Quelqu'un qui écrit des chroniques. Par contre, j'accepte avec plaisir de vous raconter des histoires. Dans chroniqueur, on peut entendre chronos. Et donc, d'après le langage des oiseaux, je pourrais baiser le temps. Baiser votre temps. Et vous donner du plaisir. Sachez que j'en prends beaucoup à le faire et j'essaye de vous en donner énormément. Nous pourrions ainsi développer une relation amoureuse, platonique. Voilà où je souhaitais vous emmener pour aborder une forme d'abstinence que j'ai découvert ces derniers mois. En ce moment, je me sens amoureux de deux femmes avec qui je ne fais pas de sexe, mais avec qui je fais des câlins. On me répond souvent « Ah, mais c'est de l'amitié !» en essayant de rattacher cette surprise au connu. Mais c'est bien plus fort. Parfois, je les regarde et elles m'apparaissent comme des anges illuminés des rayons de l'amour. Voilà, comme avec quelqu'un avec qui on baisse bien, sauf que là, c'est platonique. Et encore que dans platonique, il y a Nick et cela ne me concerne vraiment pas. Comment en est-on arrivé là ? En parlant de nos besoins, de nos envies. Il est bon de sentir que je n'ai pas besoin de plus, que je ne suis pas dépassé par mon désir, que je ne suis pas frustré, que je suis calme, aimant, détaché, traversé, que je peux aller aimer ailleurs et demander si l'on veut être câliné. C'est tellement bon lorsque quelqu'un me demande si je veux bien un câlin. Oui. Tout cela me permet d'observer les automatismes, les jalousies, les attachements qui ne prennent pied en moi que pour disparaître immédiatement, car ils n'ont pas raison d'être dans ces relations nouvelles qui sortent des cadres définis. Alors bon, ça tombe bien, c'est l'hiver. Une bonne période pour l'abstinence, où la libido de nombreuses d'entre nous se berce de douceur dans le calme plat du lac de montagne. Il fait froid. Ne plus faire de sexe, c'est un peu comme ne plus manger, ou arrêter de boire pendant un mois, ou arrêter de voter. Ça permet de se rendre compte de ce que ça représente réellement dans notre corps. D'ailleurs, vous aurez remarqué que les élections, c'est toujours au mois de mai ou en avril, en plein printemps. Et pourtant, il y a déjà 30% d'abstention. Alors imaginez les élections d'un 14 janvier, je ne vous dis pas l'hécatombe. Un pote m'a dit « Punaise, mais on serait tellement tranquille s'il n'y avait pas besoin d'assouvir un désir sexuel. Il n'y aurait pas tous ces micmacs en teuf où on ne sait pas forcément comment faire. Toutes ces années de jeunesse où on s'est dit « Ouais, ce soir je vais pécho ». C'est bon d'en avoir rien à foutre et de se laisser surprendre. Pour en revenir à mes amoureuses, l'une d'entre elles m'a fait découvrir le podcast « Le cœur sur la table » de Victoire Thuaillon, la même journaliste qui a fait « Les couilles sur la table ». Cette fois-ci, se lançant dans la déconstruction de notre sentiment amoureux façonné par notre éducation, afin que chacun puisse découvrir et accepter sa façon d'aimer. Par exemple, cette période de célibat entre deux histoires d'amour, où l'on peut avoir plusieurs amants, eh bien, certaines personnes se rendent compte que c'est cette période qui leur convient le mieux. Ils n'en font plus un entre-deux. Elle fait parler Stéphane Rose, qui a écrit « En finir avec le couple », et pour qui se libérer du pouvoir des mots, des concepts, des étiquettes, couple, amour libre, polyamour, lui permet de découvrir avec l'autre la façon d'aimer qui lui est propre, et c'est alors qu'il a commencé à être un petit peu heureux en amour. Je vous recommande grandement ce podcast merveilleux, ainsi qu'une interview d'Aruna Lipschitz sur le grand amour, la nostalgie d'ailleurs, la nuit noire de l'âme amoureuse, une vision un peu plus spirituelle de l'amour. Nous savons ce qu'est l'amour et nous sommes venus le chercher sur Terre. Sur notre chemin d'apprentissage, de quête, après avoir essayé beaucoup de façons d'aimer, on finit par mourir à l'amour. On y renonce et on accepte d'être dans l'amour sans attendre que cela se traduise en relation amoureuse. C'est fini, mais je vais aimer quand même. Et c'est lorsqu'elle y renonce qu'elle découvre la réelle nature du grand amour. Sa vision rejoint celle d'une autre conférence sur l'amour et le couple divin originel. Alors là, c'est encore plus spirituel. Qui parle de la quête amoureuse et comment se débarrasser des schémas faux et archaïques qui empêchent la réalité de l'amour. Qui explique la séparation des polarités féminines et masculines pour créer la puissance du couple. Couple qui se trouve déjà en nous, car nous avons en nous cette polarité féminine et masculine. Le couple est une structure fondamentale du cosmos, de notre univers. Il permet et dégage une énergie beaucoup plus puissante que la somme des entités qui le composent. Il permet aux êtres de se réaliser dans leur plus grand potentiel. La difficulté du couple réside dans l'existence des cinq plans ou centres qui nous composent, le plan physique, intellectuel, émotionnel, sexuel et spirituel. Pour connaître l'harmonie dans un couple, il faut connaître l'harmonie sur chacun de ces plans. Et là, c'est chaud. Ces différents plans ou centres communiquent entre eux, s'utilisent, se stimulent. La sexualité peut être motivée par le mental, ou l'émotionnel, ou le physique. L'éros, concept de l'amour passionnel, l'envie d'aimer, sera un autre moteur de la sexualité. C'est pour cela que l'on peut sentir différentes façons de faire du sexe ou de faire l'amour, et que nous avons différentes façons d'en parler. Je vous laisse cliquer sur ces liens sur la page de l'émission. Ces podcasts me semblent très intéressants, et pour en résumer l'idée qui me traverse, il paraît évident qu'il nous faut redéfinir ce qu'est pour nous l'amour, la sexualité, le couple, et quels sont tous les couples que nous formons dans notre vie avec nos amoureux, nos amis, nos parents, nos passions, nos espaces, notre monde. Et quelle forme ils prennent. J'ai très envie d'aller trouver la réalité qui se cache derrière nos mots. Voilà, merci pour votre écoute. Je nous souhaite beaucoup d'amour, des câlins et du sexe torride. I love you.
me stupid. She's made me stupid. We've made me stupid. I've made me stupid. He's made me stupid. She's made me stupid. We've made me stupid. I've made me stupid. Get down. I want you on the floor. 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 I want you on the floor.
Vous êtes toujours sur l'écoute alléchée au 107.5 Radio Diwa. Vous venez d'entendre Robots in Disguise, The Sex Has Made Me Stupid. C'est Soumak et je vous partage que je me suis bien régalée. Quel voyage encore de préparer cette émission. Ce thème, comme à chaque fois, est venu bien chambouler mes structures de pensée et mes croyances. J'adore. C'est vrai, c'est fou, encore un nouveau choix, une nouvelle orientation, un nouveau possible que l'on peut emprunter. Plus on veut définir la sexualité, et moins elle devient définissable, je trouve. Il y a l'asexuel qui a une sexualité, l'abstinent qui a une libido, les amoureux qui ont une relation platonique, les sex friends et tant d'autres choses. Finalement, pourquoi vouloir définir l'indéfinissable ? Je sais pas, mais je trouve ça très grisant, en fait, de sentir toute cette multiplicité des expériences. La sexualité serait plutôt peut-être un continuum que des catégories, goûts ou classifications précises à définir. Tout c'est possible pourrait sembler vertigineux, mais moi, je trouve ça presque excitant. Pourquoi ? Parce que cela réveille du désir chez moi. Le désir de me sonder, de savoir, de découvrir ce qui me plaît, de trouver et puis d'y aller. Mais peut-être que dans un mois, un an, 10 ans, je prendrai une autre voie et une autre et une autre. Que l'on parle de polyamour, d'abstinence ou d'asexualité, dans certains témoignages, ce qui ressort, c'est que les personnes se connaissent. En tous les cas, elles semblent se connaître. Elles ont une réflexion et choisissent ce qui est bon pour elles. Je trouve cela tellement admirable et respectable. Et dans cette société du tout sexuel, c'est naturel aussi de voir émerger la tendance inverse. Forcément, il y a des gens qui n'ont pas envie de cela, surtout qu'on nous vend la sexualité fréquente, parfaite et épanouie comme une norme, un but. Alors que dans ce continuum, la norme n'est finalement qu'une moyenne. Il y a des personnes qui font peu l'amour, certaines qui sont au degré zéro de libido, d'autres qui sont à fond, voire addictes. Et puis, on peut passer de l'un à l'autre selon les moments. Et c'est pourquoi il serait sage de se libérer de la norme. C'est un mirage et ça l'a toujours été. Et ce mirage a créé suffisamment de dégâts, je crois. Je me plais à croire que maintenant, nous avons tout à créer et découvrir. J'avais envie d'observer de plus près le cas de l'abstinence au sein d'un couple. Ou dit autrement, des volontaires à la non-sexualité mais qui ne refusent pas la relation et le romantisme. Parce qu'en fait, je trouve que c'est donner aussi une autre dimension à la relation amoureuse. Et c'est comme aller révéler, sublimer autre chose, et peut-être découvrir de vrais trésors. Peut-être que j'idéalise, mais bon. Voici quelques mots pour illustrer tout ça. Une page blanche, une terre jamais foulée, un continent inconnu, c'est la genèse, c'est la pangée, les conditions miraculeuses et parfaites à l'amour, l'océan primordial, les origines du monde, de notre monde. Les îles vierges, j'aimerais bien y aller, les îles vierges, j'aimerais bien m'y cacher. Les îles vierges, j'aimerais bien t'y emmener. Les îles vierges, là je saurais aimer.
Merci Soumak pour ces quelques petites notes enchantées. Pour conclure, il paraît évident que le rapport sexuel n'est pas une condition sine qua non pour l'expression du sentiment amoureux et la construction et la durabilité des couples de manière générale. Chacun a son mode de fonctionnement, ses besoins, ses envies, ses priorités et sa manière propre d'exprimer à l'autre son amour. Le plaisir charnel est une chose qui nous paraît évidente parce qu'il a toujours été synonyme de normalité, considéré avant tout comme le moyen naturel de reproduction. Que ce soit par choix, par obligation, par conviction, chacun est libre de laisser ou non une place aux relations charnelles dans son couple et dans sa vie. Chacun est libre d'exprimer son amour pour l'autre et même son désir d'une façon différente. Au final, l'important, c'est que les deux personnes soient en accord avec l'expression de leur désir et la place du plaisir charnel, existant ou non, dans la construction de leur lien. Merci les petites épices d'avoir participé à cette émission et on se retrouve le mois prochain avec un tout nouveau sujet. À bientôt, bye bye.
À tout vite.
À bientôt.
Bonne nuit à vous.
Des bisous.